Nous allons prier pour ceux qui sont malades. J'ai vu certaines personnes incapables de se tenir debout, mais vous êtes quand même venus. C'est peut-être que la chair vous retient, mais Dieu veut que ton âme, ton esprit, ton corps l'adorent. Dieu veut que notre âme, notre esprit, notre corps puisse l'adorer. Nous allons prier. Tu es malade, tu es entré en ce lieu. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de parler à Dieu à ce sujet. Lève ta main, nous allons prier pour toi. Toi qui n'as pas su t'élever pendant que nous étions en train d'acclamer le Seigneur. Je vois les mains levées. Nous qui sommes en bonne santé, est-ce que nous pouvons réclamer la grâce de Dieu sur ceux qui sont malades et pour ceux qui n'ont pas pu venir en ce lieu, cloués sur leur lit, cloués, Seigneur, cloués dans les lits des hôpitaux, que les Seigneurs se souviennent de. Seigneur, je viens te recommander. Nous venons te recommander les mains levées de nos frères et de nos sœurs, incapables, Seigneur, fatigués, faibles dans leur corps. Mais nous croyons que c'est toi qui donnes la bonne santé, Seigneur, oh Dieu. Lève ta main, Seigneur, meurtrie, la main qui donne la guérison. Seigneur, que tu les touches là où ils sont, ou qu'ils se situent, Seigneur, oh Dieu. Ils ont levé la main non pas vers nous, mais devant toi, Seigneur, oh Dieu. Éternel, qu'ils soient en bonne santé et qu'ils puissent encore te glorifier, Seigneur, oh Dieu. Car il est préférable, Seigneur, de t'adorer dans tous les compartiments de notre être. Seigneur, que le corps, Seigneur, également, Seigneur, puisse te célébrer. Merci, Seigneur, de guérir ceux qui sont malades en ce lieu. Et au loin, Seigneur, étends ta main sur eux et donne gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen. La Bible me rassure que tout ce que vous demandez au Seigneur, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur parce qu'il a exaucé ta prière, nos prières ce matin. Amen. Nous disons merci à vous tous qui êtes venus entendre Dieu, non pas moi. Merci pour le serviteur que Dieu a établi en ce lieu. Il a voulu que nous puissions parler à sa place. Nous ne sommes rien du tout. Nous disons merci à notre pasteur, le frère Mouéou, qui est parti au loin apporter la bonne nouvelle, que Dieu le soutienne, et aussi tous les membres du comité qui l'entourent, que Dieu les bénisse pour ce soutien. Et vous tous qui avez prié pour ce culte d'aujourd'hui, merci de m'avoir soutenu. Peut-être vous ne saviez pas que c'est moi qui allais parler, mais je bénis Dieu parce que vous avez prié et nous croyons que Dieu est au milieu de nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez recevoir les bénédictions de la part de Dieu? Alléluia. Merci Seigneur. Je voudrais faire comme Job. C'est peut-être que j'ai offensé quelqu'un au loin, peut-être d'une manière inconsciente. Mais avant de parler, je voudrais te demander pardon. Peut-être que tu t'es offensé de moi en me regardant. Tu dis, encore ce frère devant là. Aïe, 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 aïe. Pardonne-moi mon frère si ton cœur est chagriné par ma présence en ce lieu. Mais je bénis Dieu aussi pour ceux qui sont joyeux de me voir au devant de vous. C'est une grâce que le Seigneur nous accorde. Amen. Car la Bible dit, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Et Job a compris ces choses. Nous allons sans plus tarder, nous avons un culte serré. Et je prie Dieu pour que je puisse arriver à gérer le temps. Car j'ai beaucoup à dire. Je me dis, Seigneur, j'avais très peu, mais là je me retrouve avec beaucoup de choses à dire. Que Dieu m'aide à faire vraiment une belle synthèse, afin que la pensée qu'il a pour vous, que nous puissions réellement l'entendre. Amen. Nous allons lire dans le livre de Job. Job chapitre 1er, de 1 à 5. Job chapitre 2, de 6 à 13. Et Job et Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 et verset 4. Et au fur et à mesure, nous allons également lire la Bible pour soutenir les pensées que Dieu nous a donné en ce lieu. Ce matin, je suis venu exhorter quelqu'un. Je suis venu encourager la foi de quelqu'un. C'est le Seigneur qui veut encourager ta foi. Le Seigneur veut que tu puisses réellement sortir victorieux dans tout ce que tu vis comme combat. Je vous déclare déjà béni parce que le Seigneur vous a déjà béni. Amen. J'ai lutté pour avoir le message. Je n'ai jamais lutté comme cette fois-ci. Depuis qu'on m'a informé que je devais annoncer la bonne nouvelle, j'étais comme tourmenté dans mon esprit, dans mon cœur.
J'ai prié de tout mon cœur et je ne voyais pas qu'est-ce que je vais dire à vous, le peuple de Dieu. C'est ainsi que c'est vraiment avec humilité que je dis, vous avez du prix aux yeux de Dieu. À un moment, je me disais, mais ce peuple a tellement mangé des choses trop salées, que quand vous venez avec des choses qui ne sont pas aussi salées, ils ne sentent pas le bon goût. Vous êtes bénis, pourvu que vous mettiez tout ce que le Seigneur vous enseigne en ce lieu en pratique. Car il y a un grand jugement à celui qu'on a beaucoup donné. Amen. J'ai dit qu'il y a un grand jugement à celui à qui on a beaucoup donné. La borne m'a dit, Dieu vous a beaucoup béni et Dieu vous a beaucoup donné. Nous devons maintenant déployer cela, démontrer cela, que Dieu nous a beaucoup donné, car il nous a beaucoup aimés. Que Dieu soit béni. Amen. Et j'ai senti la souffrance qu'a ce l'ange que Dieu a mis en ce lieu. Je me suis dit, s'il faut que je prêche comme ça, tous les jours, toute la semaine, tout le mois, toute l'année, non. L'œuvre de Dieu est compliquée, il est lourd. Et la borne est très très lourde. Vous pesez très fort. Je ne vous flatte pas, je vous le dis avec assurance que vous pesez beaucoup. Amen. Le jour où vous serez désigné, parce que j'étais venu comme vous, incognito dans la foule, et Dieu a cherché, il m'a touché, il nous a touché, il nous a mis devant vous. Sachez que ce n'est pas par notre gré que nous sommes en ce lieu. Si cela était prémis de nous poser la question, veux-tu ? Je dirais à Dieu, non, je ne veux pas. Mais il nous contraint. Le jour que Dieu va vous contraindre, vous sentirez le poids qui est en ce lieu. Soutenez l'œuvre de Dieu par son serviteur. Que Dieu nous bénisse. J'ai déjà donné les références et nous allons lire. Ouvrir la Bible et lire. Beaucoup contestent que la Bible est la parole de Dieu, malheureusement. Beaucoup croient que la Bible est les idées des hommes, malheureusement. Vous allez voir si c'est vraiment les idées des hommes qui sont dans ce que nous allons lire. Job, chapitre 1er, et notre thème, c'est « Dieu n'oublie aucun de tes bienfaits ». Dieu n'oublie aucun, alors aucun de tes bienfaits. D'où il faut avoir les bienfaits. Sinon, ça sera compliqué. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils d'Orient. Waouh! Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, un temps de réjouissance. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour du festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être, mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi, ça j'aime, c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alléluia. Il avait coutume d'agir. Nous allons au chapitre 2, à partir du verset 6. Vous voyez comment quelqu'un est dans la joie, il est dans la paix. Mais écoutez maintenant la suite. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur le cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Voilà. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ce lèvre. Trois amis de Job, Eliphaz de Théma, Bildad de Shoach et Tsophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté le regard sur lui, il ne lui reconnut pas. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et il s'était assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans dire une parole, car il voyait combien sa douleur était grande. Quel contraste. Nous allons enfin lire Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3. Nous allons lire juste quelques portions pour avoir, nous ayons la même pensée. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3. Verset 1, il est dit ceci. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux. Nous revenons au verset 4. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Seigneur, merci. C'est toi qui gères le temps. Aucun homme sur la terre ne peut dire que je vais vivre tout le jour de ma vie le temps des réjouissances. En aucun moment. Job ne pouvait pas gérer le temps qui lui arrivait. Au contraire, il les a subis. Et de tout ce qu'il a subi, toi, l'Éternel Dieu, tu t'es souvenu de tes bienfaits. Ce matin, parle au cœur de quelqu'un qui passe des moments compliqués. Seigneur, parle à chacun de nous et donne gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Si vous aviez aimé ces paroles, est-ce que nous pouvons l'acclamer? Amen. Nous courons derrière le temps compte tenu de cette journée qui est particulière à cause de notre collecte. Bien-aimé, Dieu n'oublie aucun de tes bienfaits. Dis un peu à ton frère, Dieu n'oublie aucun de tes bienfaits. Mais il faut les avoir. Amen. Mais il faut les avoir. Mais Dieu t'en donne l'occasion pour que tu puisses lui faire du bien. Dans l'histoire de Job, nous avons l'avantage par le Saint-Esprit de connaître la genèse de la vie de Job, son acheminement et la fin de la vie de Job. Nous avons cette grâce. Gloire soit rendue à notre Dieu qui a voulu au travers de cette histoire que nous puissions tirer de la sagesse à notre tour. Job a vécu, il a vécu sur la terre où nous vivons. Donc le personnage clé de ce livre, nous voyons le Satan, le diable, il est là. Nous voyons l'Éternel qui est toujours omniscient, omniprésent, omnipotent. Dieu est avec nous. Amen. Et nous voyons la terre, car Job a vécu sur une terre. Pourquoi je le dis avec force? Parce que certaines personnes, malheureusement, croient que ce sont des chimères. Non, ce ne sont pas des chimères, parce que Satan existe bel et bien. Si pour vous, Satan est un chimère, alors vous êtes le plus malheureux. Il a réussi son coup dans votre vie. C'est lui de se cacher et pour bien vous nuire. Dieu existe. Prenez besoin de le témoigner. Le souffle que nous avons chacun de nous en ce lieu prouve à suffisance que Dieu est là. Dieu est là. Et le monde est là. Nous sommes dans ce monde, nous pouvons marcher dans ce monde et dans ce pays qui est notre pays, la RDC. Donc, ces choses sont des choses vraies. La parole de Dieu a dit vrai au sujet de l'histoire de Job. Ce ne sont pas des chimères. Je voyageais un jour, j'étais dans l'avion, à côté de moi il y avait un vieux, c'est pas coïncidence qu'on s'est rencontré avec lui, qui est membre de la famille. Et pendant que je voyageais, j'ai ouvert ma Bible, je commençais à lire la Bible. Quand il m'a vu ouvrir la Bible, nous sommes dans l'avion, dans les airs. J'ouvre ma Bible pour avoir une pensée de Dieu, mais lui se moque de moi. Et je lisais le livre de Job ce jour-là. Il me pose la question, tu lis quoi? Il dit, tu lis la Bible? J'ai dit, oui, je lis la Bible. Il dit, tu lis quoi? J'ai dit, je lis le livre de Job. Et puis il me dit, crois-tu à ce qui est écrit là-bas? J'ai dit, oui, je crois. Il dit, tu es sûr? J'ai dit, oui, je suis sûr. Je ne savais pas là où il voulait en venir. Il y a des gens qui ignorent la présence de Dieu, je ne sais pas expliquer pourquoi. Et pourtant, Dieu est là. Alors, il me dit, lis un peu, il me donne un passage que je viens de lire, la richesse qu'avait Job. Et il me pose la question, tu penses vraiment que cette richesse était vraie pour cet homme? Je dis, pourquoi vous dites ça? Il me dit, moi j'ai été en Israël. J'ai vu l'étendue, la superficie d'Israël. Aucun homme sur la terre ou en Israël ne peut compter, ne peut avoir la richesse que décrit la richesse que Job avait. Je le regardais, j'ai eu pitié de lui. Je me suis dit, mais lui, il croit que Job a vécu en Israël où il a voyagé. Mais les époques ont changé. Donc, je me suis dit, il y a des gens qui sont aveuglés par leur ignorance. Voilà, c'est pour dire que moi, je crois. Je crois peut-être au milieu de nous aussi, certains vont me soutenir que l'histoire de Job est vraie. L'histoire de Job est vraie. Alors, nous allons aborder cette histoire sur trois points. Au temps des réjouissances. Au temps des souffrances. Et au temps de restauration. Au temps de réjouissance, au temps de souffrance et au temps de restauration. Job est une grande école de la foi et de l'intégrité dans la marche avec Dieu. De la marche avec Dieu sur cette terre. Bien aimé, j'aimerais préciser que le bienfait, c'est maintenant qu'il faut déjà les rechercher. Sur la terre, pendant que tu es en vie, recherche déjà le bienfait de Dieu. C'est un jeu de ping-pong. C'est-à-dire, la Bible dit que l'Éternel n'oublie pas, nous ne pouvons pas oublier les bienfaits de Dieu. Tout comme Dieu, à son tour, n'oublie jamais aucun de nos bienfaits. Donc c'est un échange. Dieu nous fait du bien, nous aussi nous lui faisons du bien. Est-ce que quelqu'un peut comprendre que ce matin Dieu veut que tu lui fasses du bien? Comme lui, il s'est fait du bien. Donc c'était comme un jeu, je m'exprime en humain. Donc, aussi vrai que Dieu, nous nous souvenons de bienfaits de Dieu, aussi vrai que lui aussi se souvient de nos bienfaits. Ce qui a sauvé Job, ou ce qui a permis à ce que Job puisse être le matériel didactique de Dieu face à l'opposition du diable. Pour ceux qui n'ont pas pu ou qui ne comprennent pas l'histoire de Job, Job c'est un homme qui a vécu à son temps, et pendant qu'il était dans un bon moment de réjouissance, Dieu lui a béni à tous égards. Nous allons y arriver, je ne voudrais pas anticiper, mais je voudrais simplement dire que et effectivement que Job a vécu un moment où seuls ses bienfaits a joué un grand rôle. C'est un défi entre Dieu et Satan. Parce que Dieu a témoigné de Job. Satan, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre, de m'y promener. Dieu ne s'est pas limité à entendre la réponse de Satan. Il pose maintenant la question, as-tu vu mon serviteur Job? Vous savez, la réponse de Satan était quoi? Il n'a pas dit, oui, je l'ai vu. Non. Il a dit, c'est parce que tu le bénis. Donc, il l'avait vu. Et il a compris que cet homme était béni de Dieu à cause de ses bienfaits. Alléluia. Bien-aimé, Dieu se souvient de nos bienfaits. Ce matin, j'aimerais t'encourager, toi qui travailles, toi qui prie, toi qui crains Dieu, quel que soit ton état en secret ou en public, Dieu se souviendra de tes bienfaits. Dieu se souviendra de tes bienfaits. Ce sont des points que le diable n'aime pas que nous puissions marquer. Il nous empêche, coûte que coûte, que nous ne puissions pas marquer le point. Nous sommes au premier point. Au temps de réjouissance. C'est le temps le plus préféré pour chaque homme. C'est le temps où nous nous réjouissons de ce que Dieu nous a donné. Nous étions chômeurs, Dieu nous donne du travail. Nous n'avions pas d'enfants, Dieu te donne des enfants. Tu étais malade, Dieu te donne la bonne santé. Tu fais des business, c'est la réussite. Les temps de réjouissance, où vous avez l'impression que la souffrance, c'est comme... ça n'existe pas. Il y a des gens qui, à une certaine époque, les gens pensaient, quand il y a la souffrance, de quelle souffrance vous faites allusion? Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un temps de réjouissance. Bien aimé, le temps de réjouissance, le temps de souffrance et le temps de restauration ne dépend pas de nous. Nous ne sommes pas maîtres du temps. Dieu, c'est celui qui maîtrise le temps. Il nous donne, et j'aimerais déjà rassurer qu'aucun homme sur la terre, j'ai essayé de réfléchir au-dedans de moi, aucun homme sur la terre ne peut dire que je n'ai jamais vécu un temps de réjouissance. Chacun se réjouit à son rythme, à son temps et dans son domaine. Il peut avouer, vous pouvez avouer en disant « Oui, j'ai eu un temps de réjouissance. » Mais c'est pendant ce temps que nous devons marquer les points devant Dieu. C'est un temps où nous devons manifester les bienfaits de Dieu. C'est un temps où beaucoup sont dans la distraction. C'est un temps où les gens pensent à leur ventre. Un temps où les gens pensent à la croissance de leurs biens. Le temps de réjouissance. Très peu arrivent à comprendre que c'est un temps où tu dois coopérer avec Dieu, où tu dois collaborer avec Dieu, où tu dois marquer les points avec Dieu. Job a compris que ce temps de réjouissance, c'était un temps où je devais faire du bien aux pauvres, où je devais comprendre la misère des autres. Job avait compris que pendant ce temps, bien aimé, vous qui êtes, qui avez le temps de réjouissance, comprenez que c'est un temps où Dieu vous a donné afin que vous puissiez aider ceux-là qui sont dans les temps de souffrance. Ce n'est pas un temps où toi seul tu te réjouis. C'est un temps où tu dois marquer les points devant Dieu. Tu dois dire, si j'ai cette réjouissance, je peux épargner quelque part pour ceux qui souffrent. Job avait posé des actes dans ce temps de réjouissance. Ma question ce matin où le Seigneur te pose la question, que fais-tu du temps de réjouissance? C'est un temps qui passera. Alléluia. Le temps de réjouissance est un temps qui passera. Tout le temps ne sera pas un temps de réjouissance. Pendant que tu passes de moments de bonheur, réfléchis, car il y aura un temps difficile. Mais c'est pendant le temps de réjouissance que Dieu, le Seigneur, a permis à Job de faire certaines choses. Et nous allons voir qu'est-ce que Job a fait pendant le temps de réjouissance. Premièrement, la Bible dit qu'il a craint Dieu pendant ce temps, pendant cette période de sa vie. La Bible dit qu'il était un homme considérable. Mais il craignait Dieu. Bien aimé, c'est rare de voir les riches craindre Dieu. Quand les hommes sont dans l'abondance matérielle, je me pose la question, pourquoi ne craignent-ils pas Dieu? Parce que cette abondance vient de Dieu. C'était un temps où Job a dit, c'est lui qui me rend fort de produire et de travailler, c'est Dieu. Je dois le craindre. La Bible dit craindre, ce n'est pas avoir peur de Dieu. C'est mettre Dieu à part. Comprendre que ça, ici, en ce moment, ce que je suis devenu, ça vient de Dieu, je dois mettre Dieu à part. Faire la distinction. Faire la distinction. Beaucoup de gens, dans le moment de réjouissance, L'orgueil monte, 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 monte. Une fois j'ai suivi une vidéo d'un ancien, de la famille de notre ancien président, le maréchal. Cet homme qui vit, ils ont masqué son visage, j'ai compris. Il a masqué son visage et pourtant c'était des gens qui marchaient avec et qui ne masquaient pas leur visage pendant des temps de résistance. Mais pendant qu'il traverse des temps de souffrance, il masque pour que les gens ne le reconnaissent pas. Il dit, je ne comprenais pas que les gens souffraient. Pendant que nous, on croyait que les gens étaient jaloux de nous. Bien-aimé, pendant le temps de résistance, les gens ne sont pas jaloux de toi. C'est le diable qui te fait croire que les gens sont jaloux de toi. Loin de là, il arrive. Il est vrai que les gens sont utilisés par le malin pour pouvoir être jaloux de vous, mais ça ne fait rien si tu poses des actes qui donnent donc gloire à Dieu. Alors cet homme dit, il ne pouvait pas imaginer que le peuple souffrait. Je m'étonnais, il était à Genève, il vivait à Genève. J'ai dit, comment? Cet homme ici ne comprenait pas qu'il y avait la souffrance. Il dit, chaque fois que le peuple disait que la crise, l'opposition soulevait ces problèmes-là, nous on était sûr qu'ils étaient jaloux de notre régime. C'est très souvent le cas. Quand quelqu'un vit dans la réjouissance, il pense que la misère ne peut pas l'atteindre. Il pense que les difficultés ne peuvent pas l'atteindre. Mais Job a compris pendant ce temps que je dois craindre Dieu. Je dois mettre Dieu à l'écart. Et quand je mets Dieu à l'écart, j'agis en conséquence. J'agis en conséquence. La deuxième chose que Job faisait, c'était quoi? La Bible dit que Job était un homme discipliné. Dans l'abondance, mais un homme discipliné. La Bible dit qu'il s'est détourné du mal. Bien-aimé, riche, ou vous pouvez vous décider aujourd'hui d'aller dans n'importe quel coin du pays et vous y aller. Vous n'avez pas besoin de... Il y a des hommes que Dieu a élevés. Je sais que Dieu va élever encore les gens en ce jour. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas comme vous et moi pour voyager. Il y a un avion privé pour eux. Ils donnent seulement la destination et son équipage prépare le plan de vol. Il y a des gens qui sont arrivés à ce niveau-là. Je veux aller à tel endroit. Il y va sans problème. Il n'a pas le temps d'attendre les compagnies aériennes avec leur hésitation et leur perturbation. Lui, il voyage quand il veut, comme il veut, quand il veut. Et si c'était toi, peux-tu craindre le mal? Peux-tu craindre le mal? La Bible dit qu'il était discipliné. Je me suis dit, mais Seigneur, comment cet homme était, comment il était discipliné dans une abondance? Je vois le peu de gens qui ont peu de moyens, comment ils sont indisciplinés? La Bible dit qu'il avait fait pacte avec ses yeux au sujet des vierges. Combien de gens, lorsqu'ils ont des moyens, les femmes deviennent leur objet? Bien-aimé, Job était en train de faire le bienfait à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous enviez le temps de réjouissance. C'est un temps où même moi j'en ai envie. Mais c'est un temps où nous devons investir pour Dieu. Nous devons investir pour Dieu. Troisième chose, la Bible dit qu'il était, riche. Mais il y a des riches riches, il y a des riches pauvres. Il y a des pauvres riches, et il y a des pauvres pauvres. Je vais m'expliquer. Vous êtes riche matériellement, mais spirituellement pauvre. Donc vous êtes un riche pauvre. Allons lire un peu, parce que ce n'est pas moi qui invente ça. Vous dites, mais ce frère, il a eu ça où? Qu'est-ce qu'il soutient ce qu'il dit? Qu'est-ce qui lui donne cette pensée? Il est dit où? C'est le Seigneur qui le dit. Il dit qu'il y avait un homme riche. Riche à tel point que son grenier a beaucoup produit. Et cet homme commença à réfléchir. Oh, mais je vais faire, je vais briser tout ça. Je vais... Il y a des gens comme ça, hein, ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent, dans toute leur vie, ils ne font que des constructions. Ah oui, oui. Ils arrivent à un endroit, bon, ici, je vais construire, construire. Alors, la Bible dit que cet homme, pendant qu'il réfléchissait, il était riche mais pauvre. Il réfléchissait comment il va faire croître, c'est dans Luc, je crois. Comment il va faire croître sa richesse, il va encore agrandir ces choses. La Bible dit, misérable que tu es, malheureux que tu es, cette nuit, ton âme te sera réclamée. Pauvre, riche, mais riche, pauvre. Mieux vaut être pauvre et riche. Et riche, riche. Amen. Vous êtes riche et riche. Et vous êtes pauvre, mais vous êtes riche. Amen. Alors, la Bible dit que Job soignait. Il soignait sa famille. Il y a des riches qui ne savent même pas prendre soin de leur famille. Vous avez beaucoup de biens, mais vos enfants sont dans un état misérable. J'ai dit bien misérable, spirituellement. Ils font ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont... Même les enfants deviennent comme si la richesse de leur papa devient leur richesse. C'est vrai, ils sont héritiers, certes. Mais du vivant, les enfants de Job aussi vivaient comme ça. Pourquoi Job devait chaque fois dire, les enfants ici, est-ce qu'ils comprennent que cette richesse vient de Dieu? Il se fait qu'ils ont péché d'une manière quelque part, parce que lui, il craignait Dieu. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu comprennes qu'il faut que tu craignes Dieu. Dieu veut que tu le craignes. C'est-à-dire que Dieu... Je vais m'exprimer clairement. Je vois un frère qui dort là, je ne sais pas pourquoi. Il est fatigué, malade ou comment? Bien-aimé, si tu saviez que... C'est pas facile de venir ici et de parler. Et pendant que vous parlez, vous dormez. Ça fait mal. Là, moi, j'ai dit, Seigneur, est-ce que vraiment tu m'as mis quelque chose à cœur ou ça ennuie quelqu'un? Est-ce que je vous ennuie? Ok, merci. Merci. Bien-aimé, j'ai perdu un peu. Oui, je disais que Job avait, il soignait sa famille. Il y a de ceux qui ne comprennent pas que la première des richesses que Dieu nous donne, c'est la famille. C'est la famille. Il réfléchissait sur ses enfants. Il s'est posé des questions. Il se pourrait que mes enfants, dans cette abondance, vous savez, quand vous avez des enfants qui vivent dans l'abondance, ils ne comprennent pas que Dieu est capable de changer le temps. Ils ne comprennent pas. Parlez aux enfants en disant que ce que vous voyez, il y a de ceux qui en cherchent. Moi, je dis à mes enfants, attention, la famille n'existe. Il y a de ceux qui, le matin, ils se réveillent, ils n'ont rien à manger, ils vont étudier. Et au retour, ils n'ont rien à manger. Et le lendemain, ils doivent aller étudier. Or, les études, c'est de l'énergie qu'on dépense sur le plan mental. Or, il faut bien manger pour étudier. Gloire soit rendue à Dieu. Nous qui avons étudié dans de pareilles conditions, mais nous avons réussi. Je me dis, waouh, ça c'est une grâce de Dieu. Quelqu'un étudie dans de pareilles conditions, et vous avez réussi, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour cela d'abord? Car c'est vraiment, les Occidentaux s'étonnent même. Ils disent, oh, mais comment vous réussissez alors que vous mangez misérablement? Waouh, c'est une grâce de Dieu. Ça ne se comprend pas. Même les diététistes nous enseignent qu'il faut bien manger pour étudier. Alors il faut parler. Job parlait à ses enfants. Il disait, attention mes enfants, attention. Peut-être qu'ils sont inconscients. Vous savez, quand vous êtes dans l'abondance, on vous alerte que le temps difficile viendra. On ne prend pas souvent garde. On croit que bon, ce sont des chimères. Allez prophétiser pour quelqu'un qui est dans l'abondance. Dites-lui qu'il y aura un temps de disette. C'est rare qu'il puisse être sensible. C'est quand ils sont maintenant dans le temps de souffrance, nous allons en arriver, que vous verrez les gens tourner les regards vers Dieu. Mais comment Dieu va se souvenir de tes bienfaits? Au temps de souffrance, c'est compliqué. Le diable maintenant prend le dessus. Donc Job était un homme qui savait soigner dans l'abondance, il savait bien éduquer ses enfants spirituellement. Parce que nous ne pouvons pas parler sur le plan matériel, c'est déjà acquis. Les enfants de Job, la Bible dit, ils s'invitaient mutuellement. À l'occasion de quoi? Peut-être de rien. Il y a des gens qui fêtent des anniversaires. Moi, j'ai mis fin à ça. J'ai dit, ouais, mais ça nous amène où, cette histoire d'anniversaire? Ça nous amène où? Hein? Il y a l'essentiel plus que les anniversaires. Et ça s'est glissé lentement dans l'église. Vous sentez maintenant, les gens ne témoignent plus de ce que Dieu fait dans leur vie, si ce n'est, j'ai béni Dieu le jour de l'anniversaire. Mais le jour que tu as cet âge-là, as-tu dit à Dieu, merci parce que tu m'as préservé du péché? On oublie ça maintenant. Bien-aimé, Job comprenait ces choses. Il savait éduquer ses enfants. Il savait prier pour ses enfants. Je bénis Dieu pour ce que les papas ont organisé. Nous avons parlé du culte familial. Job savait organiser le culte dans sa maison. Présenter l'holocauste pour le péché inconscient. Il se peut. Tel que je connais celui-là, l'aîné là, surtout l'aîné. Ah non, 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 il est trop turbulent. Il sait peu qu'il a péché en fait. Que Dieu pardonne, que Dieu fasse ça. Il savait le faire. Et ça, c'était les bienfaits qui marquaient. La cinquième chose, la Bible dit, c'est ce qu'il avait comme coutume. Donc c'était son habitude. Quand on a coutume de faire du bien aux gens, il faut qu'on ait cette culture, bien-aimé, que ça ne soit pas forcé. Il faut que ça soit naturel. Il y a des gens qui ont compris qu'il faut être généreux quand on est dans l'abondance. Ils ne peuvent pas vivre avec les biens encombrés. Non, 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 non. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui souffrent quelque part pour que je puisse faire un don à ces gens-là? L'Église en parle. Vous avez des choses abondantes. Vous-même vous dites en tout cas, j'ai des choses abondantes. Mettez à côté parce qu'il y a des gens qui en veulent. Mettez à côté parce qu'il y a des gens qui en veulent. Je me souviens d'une tante qui s'est repentie amèrement. Gloire à Dieu parce qu'elle s'est repentie. Elle avait des mâles et des mâles de Watts hollandaises. Elle mettait. Ok. Ouais, vous gardez les habits dans un mâle. Qu'est-ce qui s'est passé? Un beau jouet. Ah, il y a longtemps que j'ai porté tel wax. Au moment où il cherche, yeah. La teigne est passée par là. Elle essaie de vérifier, yeah. La teigne est passée par là. Elle a au moins mis de côté une vingtaine de wax. C'est là où elle a dit, je pêche. Pourquoi j'ai trop attaché ces choses alors que je ne sais pas le porter tous? Vous avez des biens abondants, mais il y a de ceux qui en cherchent, bien-aimés. Il y a de ceux qui se demandent même comment est-ce qu'ils peuvent venir à l'église parce que les vêtements qu'ils ont, pour eux, ce n'est plus présentable. Bien-aimés, si tu vis de tels moments, je te dis, viens quand même, car Dieu a des choses merveilleuses pour toi. Même si, c'est comme ça que Dieu équilibre les choses. Même si les riches ne comprennent pas qu'eux sont riches pour nous aider, mais Dieu va se souvenir de ça. Temps, le deuxième temps, c'est le temps de souffrance. Bien aimé, ce n'est pas nous qui gérons le temps. Je le dis. C'est aussi un temps où tout le monde passe. Tout le monde se souvient des temps de souffrance. En tout cas, si tu n'as jamais passé des temps de souffrance, j'aimerais t'écouter à la fin du culte. Pour vérifier si tu fais les bienfaits. Parce que Dieu se souviendra de toi à coup sûr. Au moment où tu vas passer des moments de souffrance. Ce sont des moments où, après avoir investi, vous savez, le moment de souffrance, le moment de réjouissance, nous aide pendant le moment de souffrance. Je me souviens une fois, ma femme attendait famille, elle devait se déplacer pour aller répondre à un appel d'embauche. Je n'avais pas le transport, on habitait du Pen. Je me regarde, je me dis, ah, je n'ai pas le transport pour qu'elle se déplace et aller répondre à cette invitation. Je suis allé voir un cousin, un frère, qui vivait aussi dans le quartier avec moi. Je suis allé le voir, j'ai dit, mon frère, je suis venu, j'ai un problème. Vous savez, au moment de souffrance, il faut avoir des gens, hein, des amis frères, des amis vrais. Je réponds, de vrais frères. Parce qu'il y a beaucoup de faux frères. Hein, beaucoup de faux frères. Je suis allé voir ce vrai frère.
Je lui ai dit, j'ai des problèmes, je n'ai pas d'argent. Ma femme doit absolument aller à ce rendez-vous d'embauche. Chômeur, hein, et moi et elle. Alors, écoutez ce qu'elle dit. Il me dit, ah, je n'ai rien. Mon frère, je n'ai rien. Mais je n'ai que ces 5 dollars là. Imaginez que ça comme argent, prends un peu ces 5 dollars. Moi, pour moi, ces 5 dollars étaient comme 1000 dollars. Je le regarde, je dis, mais tu m'as sauvé. Bien-aimé, autant de souffrances. C'est un temps, personne ne demande de passer ce temps. Ce frère-là, jusqu'aujourd'hui, j'en parle, je témoigne même de lui. Lui-même ne savait pas que le geste qu'il posait là, il investissait. 5 dollars ce jour-là, j'ai vu 5 dollars comme 1000 dollars. Tellement que ça m'a aidé. Mon épouse est partie à ce rendez-vous si important à cette époque pour nous. Et elle a eu même le temps de partir et de revenir. Chose que je n'avais même pas. Bien-aimé, il y a des gens qui passent des moments de souffrance. Mais ce moment de souffrance, bien-aimé, sachons vivre bien avec ces gens, avec les gens pendant que nous étions dans un moment d'abondance. Il ne m'a pas refusé ce geste parce qu'il s'est souvenu que moi aussi je l'ai aidé au moment de souffrance. Il s'est souvenu que, toi, moment de souffrance, tu viens demander, je n'hésite pas. Il y a des gens qui sont comme ça. Bien-aimés, soyez comme ça. Que Dieu se souvienne de tes bienfaits. À tel point que toi, tu te gênes d'aller parler à quelqu'un, mais la personne est en train d'avoir envie que tu viennes lui demander, car il veut te faire du bien, car il voit que tu es un homme de bien, et il veut te faire du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés, un commentateur a expliqué qu'il y a trois visions de souffrance. Trois visions de souffrance. La première, la vision de Satan. Qu'est-ce que Satan voit comme souffrance? Qu'est-ce qu'il a comme vision quand il a la souffrance? La Bible dit, c'est dans ses commentateurs, et j'ai aimé ce qu'ils ont dit. Les hommes croient en Dieu uniquement parce que lui, la vision de souffrance est celle-là. Et c'est comme ça qu'il attaque les gens dans ces domaines de souffrance. Il dit, les hommes croient en Dieu uniquement lorsqu'ils prospèrent. Et non dans la souffrance. Mais c'est ce qui est faux. Mais ça semble être vrai, hein? Mais Job l'a démontré. C'est comme ça que Dieu a pris Job comme matériel didactique. Il dit, va, touche-le. Il a essayé, il s'est rendu compte que Job aimait toujours Dieu. Alléluia. Peux-tu aimer Dieu pendant le moment de souffrance? Peux-tu rendre gloire à Dieu pendant le moment de souffrance? Peux-tu glorifier le Seigneur, aimer encore Dieu? Voilà la stratégie pendant le moment de souffrance. Ne te lamente pas. Lève les yeux vers Dieu. Adore encore Dieu. Glorifie encore Dieu. Car lui se souviendra de toi comme il faut. Alléluia. Ça, c'est la vision du diable. Ainsi, il nous met dans l'état de souffrance. Quand il trouve que la souffrance n'a aucun effet dans la relation que tu as avec ton Dieu, il passe à une autre vitesse. Il a dit, ah, cet homme ici est fort sur ce plan-là. Il a compris. Je vais maintenant passer à la vitesse supérieure. Je touche à sa santé. Waouh, la santé. Ça dérange, hein, quand on est malade. Ça dérange. Ça perturbe la foi. Mais Dieu reste Dieu. Tu es malade d'une maladie incurable. Les médecins regardent et disent, plus de solution pour vous. Vous savez, les médecins savent décourager. Mais ils ne sont pas des dieux. Plusieurs ont été vus miracles. Ils ont dit, mais ça c'est un miracle. Mais toi tu disais que c'était impossible. Tu disais que c'était impossible. Bien-aimé, pendant le moment de souffrance, accroche-toi à Dieu. Mais j'ai dit que c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. On nous a enseigné ici que difficile n'est pas impossible devant Dieu. Au moment de souffrance, Job a passé ce moment. Ça, c'est la deuxième vision. Je voudrais parler de la deuxième vision. Donc, les amis de Job, la vision qu'ils ont de la souffrance, c'est que la souffrance est pour beaucoup de gens, ils trouvent que quand vous passez des moments de souffrance, c'est que c'est un jugement de Dieu. Parce que vous avez péché quelque part. Non, bien aimé, changeons de compréhension. La souffrance n'est pas nécessairement un moment de jugement parce que j'ai été en désaccord avec Dieu, c'est comme ça que je souffre. Loin de là. Parce que Job en a prouvé le contraire.
Ses amis cherchaient à lui faire comprendre. Ils disaient, non, toi juste. Toi qui crains Dieu, toi qui... Non, tu ne peux pas souffrir comme ça. Bien-aimé, il est possible que Dieu t'utilise comme matériel didactique afin de pouvoir faire comprendre aux autres que je peux aimer Dieu pendant la souffrance. Tous les livres de Job, vous sentez les hommes, les trois amis là, et vertu à démontrer noir sur blanc, Job, tu es un pécheur. Quelque part tu as péché, c'est pour ça que tu souffres. Bien-aimé, n'allez pas dire à quelqu'un qui souffre que tu as péché. Allez lui dire, fais confiance en Dieu. Va lui dire que le Seigneur va te soutenir. Ça, c'est la vision de beaucoup d'entre nous. Quand les gens souffrent, Asumukagi quelque part. Tu étais avec moi. Job pose la question, je dis, mais vous autres là, vous croyez qu'il n'y a que vous qui connaissez Dieu. Mais moi, je connais Dieu. Que Dieu
nous aide. Vous savez, lorsque le pasteur dit, priez pour moi, il y a des certaines personnes qui disent, c'est que quelque part, aïe, vite. Vous savez, il y a des gens qui savent développer les imaginations. Voilà pourquoi il dit, priez pour moi.
Oh, frère, attention, vous allez pécher et vous péchez du reste. Parce que les amis de Job, Dieu les a réprimandés. Il dit, pourquoi vous ne m'avez pas sanctifié pendant que Job souffrait? Quand les gens souffrent, bénissez Dieu. Dans le sens de dire que Dieu est capable de venir à votre secours. N'allez pas juger les gens. Ne les faites pas, bien-aimés. Ne soyez pas l'avocat du diable. Ne soyons pas l'avocat du diable. La troisième de vision, c'est celui du quatrième personnage dans le livre de Job qui est Elioud. Elioud lui a dit quand même quelque chose d'évident. Il dit, la souffrance est utilisée par Dieu pour nous enseigner, nous discipliner, nous perfectionner. C'est vrai, mais devant Job, ça n'avait pas d'explication. Job, on devait le discipliner comment? Parce que lui-même était déjà discipliné. Est-ce qu'on est ensemble? Il était déjà discipliné. Maintenant, Dieu va le discipliner par la souffrance encore comment? C'était un homme qui était intègre. Dieu l'a témoigné. Vous savez, quand Dieu témoigne de vous, waouh! Est-ce que vous savez que Dieu témoigne de vous et de moi? L'acte que tu poses là, d'une manière, sans intérêt là, vous posez un acte, Dieu se souvient de vous. Dieu témoigne de vous. Les sorciers le disent. Beaucoup de gens croient au témoignage de sorciers au lieu de croire au témoignage du Saint-Esprit. Moi, je ne crois pas au témoignage de sorciers. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient un père de mensonges. Très souvent, quand ils témoignent, il y a toujours une part de mensonge dans leur témoignage. Parce qu'ils n'ont pas vécu la vérité. Donc je les écoute d'un œil un peu très, très, très vigile. Est-ce que le père de mensonge n'est pas en train d'utiliser toujours son mensonge? Parce qu'il ne peut pas leur montrer toute la vérité. La vérité est du camp de Dieu. Amen. Et la dernière vision de la souffrance, c'est Dieu. J'aime cette dimension. La Bible dit, la souffrance nous conduit à mettre notre confiance en Dieu. Pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait. Ça, j'ai aimé. Bien-aimé, tu passes le moment de souffrance, adore Dieu pour ce qu'il est. Cherche Dieu pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait. Adore Dieu pour ce qu'il est. Dieu ne va pas cesser d'être Dieu parce que tu souffres. Oui, il y a des gens qui croient, mais Dieu m'a abandonné. Parce que... Non, Dieu n'abandonne personne. La souffrance n'est pas une occasion de dire que Dieu t'a abandonné. En quoi il t'a abandonné? Déclare ce que Dieu est. Dis ce que Dieu est. Il est fidèle. Il est puissant. Il guérit. Il bénit. Pendant le moment de souffrance, adore Dieu. Alléluia. Dieu aime ça. Nous l'adorons sans intérêt. Que nous soyons dans l'abondance, que nous soyons dans la souffrance. Nous savons dire à Dieu, gloire te soit rendue. Ce sont des tels adorateurs que le Seigneur se cherche. J'ai connu un frère, quand il était en moment de souffrance. Souvent c'est comme ça. Au moment de souffrance, on est à la recherche de Dieu. pour le ventre. Frère, prie pour moi, Papa Rigobert, prie pour moi, je n'ai pas du travail. Papa Rigobert, quand il vient, il était vraiment très bien là. Pendant le moment de souffrance, il venait me visiter souvent. Mais depuis qu'il a eu du travail, je ne le vois plus. Il n'est plus venu. Jamais il n'est plus venu. Quand je le vois, frère, même à l'église, je me dis, ah, oh, je vais venir, le travail. Mon frère, le travail pour lequel nous prions pour que tu obtiennes aujourd'hui, tu commences à... C'est parce qu'ils ne comprennent pas pendant le moment d'abondance qu'il faut investir pour Dieu. Très souvent, voilà comment des gens qui veulent faire du bien à certains qui sont dans la souffrance disent, ah, est-ce qu'il sera... Bien-aimé, est-ce qu'il sera reconnaissant? Bien-aimé, je mérite t'encourager. Toi, pose l'acte. Ne cherche pas à comprendre s'il sera reconnaissant ou pas. Toi, pose l'acte. Tu investis devant Dieu. Sur toute la ligne de la souffrance de Job, Dieu s'est souvenu de lui, de ce bienfait. Ça m'a étonné de voir que Dieu s'est appuyé sur le bienfait de Dieu, pour le bienfait de Job, pour pouvoir éduquer. Vous me permettez le terme, hein? Éduquer Satan. Dieu dit, bon, toi je te parle tout le temps, tu ne comprends pas. Bon, Job sera pour moi matériel didactique. Allez, touche-le pendant qu'il est dans l'abondance. Il le fait avec empressement. La Bible dit, nous avons lu comment est-ce qu'il est venu toucher Job, et matériellement et physiquement. Il le touche également physiquement. Mais la Bible dit de tout ce que Job, le temps qu'il a passé d'abondance, de souffrance, et même des restaurations, c'est là où nous allons atterrir. Job n'a pas dit un mot contre Dieu. Bien-aimé, actuellement, les gens disent, ah, ça c'était à l'époque de Job. Mais aujourd'hui, nous avons un vrai consolateur, le Saint-Esprit. Capable de nous permettre de marcher comme Job. Voilà ce que je voulais dire. Mais beaucoup de gens ne coopèrent pas avec le Saint-Esprit. Beaucoup de gens ne parlent pas au Saint-Esprit. Beaucoup de gens résistent au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle toujours. La Bible dit, Dieu ne nous a pas laissés seuls. Le Seigneur ne nous a pas laissés seuls lorsqu'il montait. Il dit, je vous enverrai un autre moi-même. Le Consolateur. Qui vous alertera. Qui vous rappellera. Qui vous fortifiera. Au moment de souffrance, le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Soyons amis au Saint-Esprit. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, des fois nous nous étonnons. Bon, étonné, c'est trop fort, mais nous comprenons qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il faut qu'ils recherchent la plénitude du Saint-Esprit. L'Église a organisé de tels moments où vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, venez parce que c'est un grand équipement spirituel. Dieu ne nous a pas laissés orphelins devant les agitations du monde. Je me suis posé la question, comment Job a tenu, alors que nous, à ce moment, nous sommes, la Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu fait habiter son esprit au-dedans de nous, afin que nous puissions arriver à glorifier et adorer le Seigneur. Il arrive même que nos paroles sont si faibles qu'il nous fait parler en d'autres langues. Des langues de Dieu, afin que nous puissions être, que nous puissions dire des mots parfaits devant Dieu. Bien-aimés, revenez rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Réclamez cela si vous ne l'êtes pas, car c'est gratuit. C'est le temps où l'effusion a été, le Saint-Esprit a été versé avec abondance, surabondance. Est-ce qu'on se comprend? Venez chercher l'effusion du Saint-Esprit. Priez, ça ne demande pas qu'un dimanche qu'on organise. Chez vous à la maison, Seigneur, aide-moi à être rempli du Saint-Esprit. Aide-moi à être rempli du Saint-Esprit, à parler de la part de Dieu, à donner gloire à Dieu. Nous allons arrêter bientôt là, au troisième point. Ah, ok, merci. Nous avons collecté le troisième point, c'était pour le deuxième culte. Bien-aimé, le Seigneur vous a sûrement parlé. Est-ce que nous pouvons baisser notre tête? Je ne sais pas quel temps tu traverses pendant ce temps. Je ne sais pas quel moment tu traverses.